France Inter, il est 8h. Et c'est le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour.
Bonjour. Iran, États-Unis, Donald Trump a failli frapper avant de se raviser in extremis. Les avions avaient décollé. Que s'est-il passé dans la tête du président américain? Le risque des frappes est-il pour autant écarté? Nous serons en direct des États-Unis dès le début du journal. À Bruxelles, les Européens, toujours pas d'accord sur un nom pour la présidence de la Commission. Guerre des drapeaux, non, la preuve. Angela Merkel aurait été une bonne candidate, estime Emmanuel Macron, vous l'entendrez. Les journalistes sont-ils trop coupés du peuple? À 8h20, votre invité questionne les médias, Nicolas.
Oui, et le circuit de ce qu'on appelle les fake news, les infox, les intox. Il s'agit de Dominique Cardon, il est sociologue, il dirige le Media Lab de Sciences Po, invité donc du grand entretien de la matinale 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans ce journal encore, bac et maintenant, la rétention des notes, les syndicats menacent, crème solaire, bio, cher, loin d'être une garantie. Résultat surprenant de l'enquête Que choisir. Excision en France aussi, le gouvernement présente son plan. France-Brésil en huitième de finale du mondial féminin de football. Et la fête de la musique place aux amateurs. Concert géant ce soir à l'auditorium de Radio France.
France Inter.
Donald Trump a donc failli frapper. Selon plusieurs journaux américains, Donald Trump a donné le feu vert à des frappes contre plusieurs installations militaires iraniennes après que l'Iran a abattu un drone américain près du détroit d'Ormuz. Grégory Phillips, vous êtes en direct des États-Unis. Les avions de chasse américains avaient décollé.
Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times. Les avions américains étaient en vol et les navires de guerre positionnés pour mener des frappes sur des cibles iraniennes. Le journal parle de radars et de batteries de missiles pour minimiser le risque de victimes civiles. L'attaque aurait dû avoir lieu ce vendredi matin. Donald Trump avait donné son feu vert à l'opération, mais hier soir, vers 19h environ, heure de Washington, le président a renoncé. C'est ce qu'affirme le New York Times et aussi l'agence américaine AP. Il faut dire que toute la journée d'hier à la Maison Blanche, les débats ont été vifs entre d'un côté les partisans d'une opération militaire, à commencer par John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, et de l'autre des parlementaires républicains et puis des généraux du Pentagone qui ont mis en garde contre une escalade qui aurait mis en danger les forces américaines déployées au Moyen-Orient.
Alors Grégory, pourquoi finalement le bras de Trump est-il retombé? Pourquoi s'est-il ravisé?
Alors écoutez, il y a plusieurs hypothèses avancées par les médias américains. La première, c'est que Donald Trump a été finalement convaincu par ceux qui lui disaient de ne pas frapper. La seconde, ce sont des raisons logistiques, matérielles, peut-être un problème de dernière minute. La troisième, enfin, un choix stratégique. La Maison-Blanche et le Pentagone ne font pour l'instant aucun commentaire et le New York Times ne sait pas ce qui a mené à ce revirement et pour quelles raisons Trump a finalement renoncé. Impossible de dire non plus si l'idée de frapper le régime iranien est totalement abandonné par Trump ou bien si le projet est simplement reporté.
Merci Grégory Phillips. En direct des États-Unis, l'Iran affirme ce matin qu'il a des preuves irréfutables que le drone américain était bien dans son espace aérien. Le monde regarde effaré, la tension montée dangereusement. Et hier à Bruxelles, Emmanuel Macron a invité toutes les parties au calme.
À Bruxelles, 8h03, où le sommet européen, Bernadette, se termine dans une impasse.
Aucune nomination au poste clé, ministre des Affaires étrangères, présidence du Conseil européen, du Parlement et surtout de la Commission européenne. Le poste qui débloque tous les autres, Weber, Vestager, Timmermans, aucune majorité pour les candidats déclarés. En cause, la guerre des drapeaux, notamment entre France et Allemagne, pas du tout, estime le président français Emmanuel Macron, qui ne voulait pas du favori d'Angela Merkel, était plutôt souriant à la sortie du sommet et vantait le débat démocratique. Il est au micro d'Angélique Boin.
Les noms qui ont été débattus aujourd'hui n'ont pas été en fonction de leur nationalité. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire moi-même. Je n'ai rien contre une candidature allemande. Je l'ai dit et ça n'était pas une boutade. La chancelière aurait-elle même été candidate, je l'aurais soutenue. Parce que je pense qu'elle a les qualités, les compétences pour être une très bonne présidente de la Commission. Ça n'est pas son souhait, je le respecte très profondément. Mais c'est aujourd'hui ce que les systèmes des partis politiques ont fait émerger qui a été questionné. Et donc il ne faut pas y voir du tout un débat franco-allemand. Il faut y voir un vrai débat démocratique, politique et de projet au sein de l'Union européenne.
Nouveau sommet le 30 juin, deux jours avant la première session du Parlement européen, nouvellement élu. D'ici là, les 28 espèrent trouver un nom, un accord d'ailleurs particulièrement souhaité, alors que le pro-Brexit Boris Johnson est de plus en plus proche de Downing Street. Les députés ont finalement désigné les deux candidats qui seront présentés au vote des membres du Parti conservateur. C'est Jeremy Hunt qui affrontera Boris Johnson, qui lui a une très large avance, a été donc désigné par les députés. Les 28 espèrent aussi trouver un accord sur l'objectif neutralité carbone 2050, car là encore, 5 heures de négociations n'ont pas permis d'aboutir. L'Allemagne s'était finalement ralliée à l'idée, mais plusieurs pays de l'Est, en tête la Pologne, bloquent. À Hong Kong, des milliers de manifestants sont à nouveau rassemblés ce matin autour du Parlement. L'ultimatum adressé à la chef de l'exécutif pour qu'elle démissionne a expiré. Ils veulent aussi le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions vers la Chine.
Il est 8h06, merci d'écouter France Inter. On passe au bac, Bernadette, avec la nouvelle menace des syndicats.
L'impact de la grève de la surveillance restant plutôt limité, eh bien certains syndicats appellent effectivement à la rétention des notes. Écoutez Marc-Antoine du syndicat Sud, il est au micro de Jérôme Collin.
La grève des surveillances, c'était intéressant, mais effectivement ça peut être absorbé par un appel massif à des précaires, des étudiants recrutés, des vacataires et des personnels administratifs pour faire la surveillance. Et ce qui nous a paru pertinent, c'était non pas le refus de correction, mais le fait de corriger, de retenir les notes pour une durée illimitée. Alors rétention de notes concrètement, ça signifie qu'on a nos copies, on les corrige, et en fait au moment où on doit les renvoyer au rectorat, on conserve les notes. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen que celui-là pour faire face au mépris du ministère. On aimerait bien ne pas en venir là, c'est quand même dommage, quoi. Sérieusement, on proteste, on envoie des arguments, on discute toute l'année. On se met en grève, on envoie des signaux un petit peu plus tendus. Et en fait, quoi qu'on fasse, on sera méprisé. Et ce gouvernement, il est capable d'attaquer sur tous les fronts à la fois et d'avancer comme un bulldozer. Donc à un moment, on se dit, bon, bah, voilà, faut qu'on trouve des solutions pour ça. Et si on pénalise le moins possible les élèves, tout en bloquant la machinerie implacable à laquelle on fait face.
Donc selon ces syndicats, les professeurs corrigeraient bien les copies, mais ils ne les donneraient pas au rectorat tant qu'ils n'auraient pas de réponse sur leurs revendications contre la réforme du bac, la réforme du lycée, ce qui pourrait repousser la publication des résultats. Elle est prévue le 5 juillet. On n'en est pas encore là. Là, les lycéens dont les dernières épreuves aujourd'hui de la semaine sont les maths et les langues étrangères. Les vacances ne sont pas encore d'actualité pour les candidats, mais il est temps d'y penser. Quelle crème solaire? Que choisir? L'association de consommateurs a réalisé une série de tests sur 20 produits destinés aux enfants. Le prix, bio ou non, le moins que l'on puisse dire, Sophie Auvigne, c'est qu'il y a des surprises.
Une bonne crème solaire pour enfants est plus chère. Faux, la mieux notée c'est le spray Lidl, 7 euros, deux fois moins cher que les autres en moyenne. À l'inverse, Uriage, 18,50 euros, est en queue de peloton. Elle contient du phénoxyéthanol et des perturbateurs endocriniens, des ingrédients certes autorisés mais suspects et qui dans le doute devraient être bannis des produits pour enfants selon Que Choisir. Les produits solaires bio sont plus sûrs. Encore faux, là, pas de perturbateurs endocriniens, mais le filtre minéral des crèmes bio ne protège pas bien contre les UVA, responsables des cancers de la peau, alors que les UVB sont surtout à l'origine des coups de soleil. Et les quatre crèmes bio testées par Que Choisir sont effectivement dans le bas du classement. Les nanoparticules, surtout le dioxyde de titane, c'est dangereux et même bientôt interdit. Eh bien encore raté, c'est vrai pour les aliments, mais pour les produits solaires, cet additif est autorisé, même en bio. Il évite aux crèmes d'être pâteuses et collantes, exactement ce que les enfants détestent.
Alors cette étude sera publiée dans le numéro double juillet-août de Que Choisir. Cette alerte de l'ANSES, l'agence sanitaire, elle estime que les lignes à haute tension représentent un risque possible de leucémie chez les enfants qui habitent à proximité. Elle parle d'associations possibles entre l'exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence et donc le risque à long terme de leucémie pour les enfants. Elle recommande par précaution de ne pas implanter de nouvelles écoles, notamment à proximité de ces lignes, même si, bien sûr, aucun lien de cause à effet n'est pour le moment scientifiquement démontré.
Il est 8h09, excision, la France aussi.
Et oui, le fléau ne concerne pas que l'Afrique. En France aussi, chaque jour, des des femmes sont mutilées sexuellement. 60 000 seraient excisées dans notre pays. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes-femmes, présente ce matin son plan de lutte. L'idée principale, la prévention. Repérer à l'école les fillettes qui pourraient être concernées, leur en parler. C'est ce que fait Rada Hatem. Elle est gynécologue et elle a fondé à Saint-Denis la Maison des Femmes.
On demande toujours à nos patientes si elles se souviennent de leur excision, si elles pensent que ça s'est fait en France ou à l'étranger. Parfois, elles nous disent « j'ai jamais quitté la France, donc ça s'est probablement passé en France, mais je n'ai pas de souvenir, je devais être bébé. » Ou alors « oui, je m'en souviens très bien, j'étais allée voir ma grand-mère à 7 ans, et un jour on m'a dit qu'on allait à une fête, j'ai mis ma plus belle robe, et puis on m'a emmenée dans un endroit, j'ai entendu des petites filles hurler, et quand ça a été mon tour, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, mais j'étais morte de peur. » Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, vous venez d'une, votre famille vient d'une région où on pratique l'excision. Peut-être que vos parents sont absolument contre, mais malheureusement, ils ne sont pas les seuls à décider. Soyez vigilantes. Si on vous emmène en vacances et que vous avez l'impression qu'une fête un peu bizarre se trame ou qu'on vous fait des promesses sans être très très précis, parlez-en à votre CPE, à votre prof, à l'infirmière scolaire, à votre médecin de famille. Voilà, demandez de l'aide.
Donc au micro d'Adjira Mohamed, Rada Hatem qui lutte donc au quotidien contre l'excision. Elle soigne chaque année à la Maison des Femmes 600 femmes victimes d'excision. Un procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises du Nord à Douai. David Gras est jugé pour braquage. En 2016, cette même cour d'assises l'a condamné à 25 années de réclusion. Mais à l'époque, il avait été jugé en son absence. Il était en cavale depuis 2011. Mais un beau jour, au bout de 7 ans, cet homme qui faisait partie des criminels donc les plus recherchés d'Europe, avait fait irruption au greffe de la cour d'assises. Cécile Bidot.
C'est une scène jamais vue qui se déroule à Douai, au greffe de la cour d'assises du Nord. L'un des hommes les plus traqués d'Europe, qu'Interpol a placé sur sa liste des fugitifs les plus recherchés, se présente simplement pour se constituer prisonnier. Cela fait 7 ans qu'il est en cavale, que la police n'a jamais réussi à retrouver sa trace. L'avocat de David Gras, Jérôme Goudard.
On est quand même sur un cas qui est relativement atypique. Pour ne pas dire exceptionnel. Déjà, une personne qui se rend alors qu'elle a 25 ans au-dessus de sa tête, je n'en connais pas beaucoup. Puis une personne surtout qui était censée avoir à ses trousses des services d'élite de la police française, avec des commissions rogatoires internationales un peu dans tous les sens, et une personne qu'on n'est jamais arrivé à localiser.
David Gras a refait sa vie, son avocat n'en dira pas plus sur le lieu où il se cachait, mais le braqueur, ancien punk, marginal, proche dans sa jeunesse des milieux skinhead, s'expliquera peut-être lors de son procès. C'est en effet sa foi qui l'a poussé à se rendre. Lors de sa cavale, il a embrassé la religion orthodoxe, il est devenu très pieux et veut faire pénitence, selon son avocat. Condamné en son absence à 25 ans de réclusion, il souhaite aussi s'expliquer. Il ne nie pas les braquages, mais affirme qu'il n'a aucune responsabilité dans la mort du convoyeur de fonds à Orly en 2011.
Et ce procès donc à Douai se termine le 5 juillet. On parlait de l'excision à l'instant. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, aux femmes tuées, la patrie indifférente. C'est avec ce slogan que 66 femmes se sont allongées hier soir comme mortes, place du Panthéon à Paris. Une opération du collectif On arrête toutes pour rappeler que 66 femmes tuées par leur conjoint et leur ex-conjoint l'ont été donc tuées depuis le début de cette année. On l'aura au mondial de football féminin, notre France-Brésil. La rencontre fait toujours fantasmer, mais la Seleção féminine n'a pas tout à fait les mêmes couleurs que celles des hommes. Elle est plus pâle pour Nadia Ben Mokhtar, la consultante football de France Inter.
Depuis le début de la Coupe du Monde, le Brésil a laissé une impression assez mitigée. C'est une équipe qui a les défauts de ses qualités, on va dire. C'est une équipe qui aime beaucoup attaquer, donc qui est agréable à regarder jouer. C'est une équipe qui produit un très beau jeu. On voit beaucoup de dribbles, beaucoup de gestes techniques. C'est une équipe qui est très créatrice, mais qui fait pas mal d'erreurs défensives. Donc en général, elle brille dans les phases de poule, mais dès que les matchs deviennent un peu plus rudes contre des équipes d'un niveau au-dessus, elles ont du mal à passer ce cap et finalement à atteindre le dernier carré des compétitions internationales.
La consultante football de France Inter, Nadia Ben Mokhtar, au micro de Jérôme Val. Donc le France-Brésil 8e de finale, ce sera dimanche au Havre. Et pourquoi pas un France-États-Unis en quart de finale. On n'en est pas encore là, mais c'est possible. Les États-Unis sont en tous les cas en tête de leur groupe.
Et à 8h14, Gaston est au banc de néon.
Et Firmin au clavecin. Place aux amateurs de tous les âges pour la fête de la musique en ce premier jour de l'été. Radio France est bien sûr de la partie, vous le savez. Ce soir, à l'auditorium de Radio France, Viva l'Orchestra, c'est l'un des plus grands concerts d'amateurs. 130 musiciens, ils ont entre 8 et 84 ans. Avec l'Orchestre National de France, ils vont donc donner ce concert. Stéphane Capron s'est glissé dans l'ultime répétition.
Vous êtes en forme ? Vous êtes au taquet ? Bon. Mettez-moi ce pupitre correctement déjà. Hop.
Il y a de la décontraction mais aussi de la discipline dans cet orchestre. Marc-Olivier Donat, violoniste du National, veille à tout sur le plateau pour mettre en place les 130 musiciens, tous amateurs. Céline vient de Reims.
Je suis vigneronne et voilà. Et cette année, j'ai le plaisir de faire partie de Viva l'Orchestra dans le pupitre des premiers violons. C'est une belle chance là, qu'on offre comme ça aux musiciens amateurs de travailler dans des conditions exceptionnelles, hein, des conditions professionnelles.
Victor, cornettiste de 14 ans, est l'un des plus jeunes.
En étant enfant, je peux faire plein de choses, c'est pas mal. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui proposent une énorme formation d'orchestre symphonique.
Tous ces musiciens sont encadrés par des membres de l'Orchestre National de France. Un plaisir pour Marc-Olivier Donat et ses collègues. Il s'agit de transmettre leur passion.
Et l'émotion qu'on a quand on voit le sourire sur les enfants, quand on connaît les histoires des musiciens amateurs qui sont là, quand on les voit se donner à 200%, sacrifier leur temps libre, leurs vacances pour être avec nous, pour être là, pour jouer, et voir le plaisir qu'ils ont du résultat.
Plusieurs mois de travail, 14 répétitions ont été nécessaires pour arriver à la consécration, le concert ce soir dans l'auditorium de Radio France.
Voilà, alors ça, c'est le concert des amateurs à l'auditorium de Radio France. Et si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez suivre et vous devez suivre, même en direct sur France Inter, la soirée à l'Olympia à partir de 20h, avec notamment L'Homme Pâle, Balthazar, Jungle ou encore Jeanne Hadid et Clara Luciani qu'on a entendu
du tout à l'heure. Merci Bernadette Chamonaz. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les cafés Malongo, Grand Cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Le ciel est chaotique.
Oui, il a séparé l'hexagone en deux partitions inégales. Sur toute la moitié nord, il chante en mode majeur avec de belles périodes d'ensoleillement. Quelques bémols de pluie localisés en fin d'après-midi sur la Bretagne et la Normandie ne gâcheront pas l'impression de beau temps. D'autant qu'une brise côtière très ensoleillée gazouille le long des côtes de la Manche. Sur une large moitié sud, de l'embouchure de la Garonne au Grand Est, le tempo est donné par une forte instabilité. La journée sera rythmée par des coups de tonnerre, de nombreuses averses, des rafales de vent et localement de fortes chutes de grêle, voire de grêlons, qui chuteront de manière aléatoire et instantanée. Une partition qui évoluera peu et qui atteindra son point d'orgue en fin de journée pour la fête de la musique. Seule la côte varoise et l'île de Beauté seront épargnées par ces intempéries.
Mercure, lui, reste dans sa zone de confort.
Il se maintient dans des valeurs de saison. Il fera même parfois un peu frais au réveil avec 9 degrés à Chartres, mais 15 à Strasbourg et déjà 17 à 20 près de la Grande Bleue. L'après-midi s'oriente vers une gamme classique avec des notes comprise entre 18 et 25 degrés. Il fera 18 à Marciac, 20 degrés à Chantepie dans l'Ille-et-Vilaine, 22 à Chanteloup dans les Deux-Sèvres, 23 à Chantelle dans l'Allier, comme à Chantonnay en Vendée.
Merci Stéphanie Fromentin.